Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La résolution du Parlement européen sur la situation en Tunisie. L'institution appelle le président tunisien à rétablir les travaux de l'Assemblée des représentants du peuple et à garantir l'état de droit. On ne peut pas laisser s'installer un pouvoir qui s'organise autour d'un seul homme, nous dira le député européen écologiste Mounir Satouri. Il est l'un des parlementaires à l'origine de cette résolution. Il sera l'un de nos invités. Un pass sanitaire au Maroc et en Tunisie. Nous y reviendrons dans votre journal. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri a vu son statut de résident révoqué par Israël. L'ancien directeur de l'Humanité, ancien député européen communiste Patrick Le Yarrick, appelle ceux qui s'étaient mobilisés pour lui quand il était en détention à ne pas accepter cette décision. Vous entendrez Patrick Le Yarrick. Les tensions politiques au Soudan, la coalition pro-civile a réitéré son soutien au Premier ministre Abdallah Hamdok. Elle met en garde contre un coup d'État rampant. Cela faisait hier 38 ans, le 23 octobre 1983, un attentat visait l'immeuble Drakkar à Beyrouth au Liban. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, le démantèlement de la jungle de Calais. 5 ans après, le nombre de traversées de la Manche a considérablement augmenté. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Fatma Bouvet de la Maisonneuve pour L'île aux mers, un roman publié aux éditions Pont-Neuf. Roman qui évoque la féminité et la maternité, extrait dans votre journal. On ne peut pas laisser s'installer un pouvoir qui s'organise autour d'un seul homme, des mots du député européen écologiste Mounir Satouri ce dimanche au micro de Radio Orient, après le vote jeudi dernier d'une résolution du Parlement européen sur la situation en Tunisie. L'institution appelle le président tunisien à rétablir les travaux de l'Assemblée des représentants du peuple et à garantir l'état de droit. Mounir Satouri, qui avec d'autres parlementaires est à l'origine de cette résolution, évoque un geste de soutien au peuple tunisien, entretien.
D'abord, la Tunisie est un pays pour lequel nous essayons d'avoir toutes les attentions, hein, notamment dans nos politiques de coopération, d'échange. Et nous savons depuis plusieurs années que la stabilité de la Tunisie est quelque chose qui est important pour la région. Il se trouve que le président Kais Saïd détient actuellement tous les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, après avoir destitué le Premier ministre et après avoir suspendu le Parlement. Et aujourd'hui, il y a un pouvoir qui est complètement, quasi totalement entre les mains d'un seul homme. En septembre, il a suspendu par décret présidentielle la constitution du pays. Cette situation était suffisamment alarmante pour qu'il puisse y avoir une interpellation, une réponse, après un débat avec le haut représentant d'une résolution du Parlement européen.
Quelle est la valeur de cette résolution qui a donc été adoptée par la grande majorité des députés européens?
Quand le Parlement européen vote cette résolution, qui appelle le président tunisien à rouvrir un processus démocratique pour la réélection du Parlement, c'est un signal politique fort, mais c'est aussi un aiguillon pour les autorités européennes, pour Joseph Borrell, qui a partagé le débat et partagé ses inquiétudes avec les députés, mais aussi pour les États membres. C'est un signal d'alarme fort qu'on exprime. La situation de la Tunisie doit préoccuper les partenaires internationaux. Et la démocratie, la séparation des pouvoirs doit être au cœur des relations avec le régime tunisien.
Vous estimez que c'est un geste d'amitié vis-à-vis de la Tunisie, la Tunisie qui a été présentée comme un pays exemplaire après sa révolution?
Ah mais c'est plus qu'un geste d'amitié, c'est un geste de soutien. Le processus de démocratisation en Tunisie doit se poursuivre. La situation sociale et économique doit s'améliorer. Nous appelons l'Union européenne à jouer pleinement son rôle, mais ça ne peut pas être en dehors de l'état de droit, ça ne peut pas être en dehors de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas possible qu'on laisse s'installer, y compris en Tunisie, un pouvoir qui s'organise autour et pour et sur la volonté d'un seul homme.
Comment vous qualifiez aujourd'hui le système politique en Tunisie?
Ce qu'on entend et qu'on voit depuis quelques semaines, et d'ailleurs les Tunisiennes et Tunisiens manifestent dans les rues ces derniers jours pour soutenir et s'opposer aux décisions du président, ils craignent que les divisions politiques peuvent générer des violences et des affrontements. Nous sommes en soutien des Tunisiennes et des Tunisiens et de la Tunisie.
C'est ce que vous répondriez à ceux qui vous accuseriez d'ingérence suite au vote de cette résolution?
C'est incroyable. À chaque fois que le Parlement européen prend ses résolutions sur ces questions internationales pour soutenir la démocratie, pour soutenir les combats légitimes pour la séparation des pouvoirs, le processus démocratique. C'est toujours les régimes autoritaires et les régimes pas démocratiques qui nous reprochent cette ingérence. Et par ailleurs, je sais que quand on prend des résolutions de ce type dans le monde, au Maghreb, dans le monde arabe, en Égypte, ailleurs, les populations, les militants de droits de l'homme, les ONG prennent ce message comme un message politique. Et donc, que l'entourage du président nous accuse d'ingérence, me fait comprendre que cette religion va dans le bon sens et qu'elle pointe là où ça fait mal.
Justement, jeudi dernier, le président tunisien a déclaré qu'il allait lancer un dialogue national sur la réforme de la loi électorale et du système politique. Il n'a pas donné plus de détails. Comment vous accueillez cela?
J'attends justement de voir les détails. Il n'y a pas de discussion à avoir avec la pluralité politique, la séparation des pouvoirs. Après avoir suspendu tout contre-pouvoir ou tout autre pouvoir, y compris la Constitution, je pense qu'il va nous falloir beaucoup de gages et de garanties et que les forces vives tunisiennes s'expriment sur ce processus avant qu'on puisse lui donner le moindre crédit possible.
Et la nomination d'une femme, première ministre, une première dans l'histoire notamment de la Tunisie, est-ce un élément qui contribue à vous rassurer?
Je vois l'habileté du symbole et le symbole Moza, sauf qu'il a nommé une femme première ministre, mais en réduisant extrêmement son pouvoir. Les pouvoirs les plus étendus sont toujours entre les mains du président qui continue à diriger techniquement lui-même l'administration. Et donc je comprends le signe et je vais vous dire, à chaque fois c'est les mêmes signes qui nous sont envoyés. C'est celle sur les femmes et celle sur la suspension ou la sortie de la peine de mort. Mais on n'est pas dupes. On veut vraiment que la séparation des pouvoirs soit réelle, qu'il y ait des élections libres et démocratiques, que la pluralité politique soit respecté et que la Tunisie reprenne son chemin vers un processus de démocratisation réelle.
Et comment comprenez-vous la popularité des mesures prises par le président tunisien depuis le 25 juillet dernier et depuis la prise de ces mesures exceptionnelles, dont le gel du Parlement?
Écoutez, on va voir ce que ça va produire sur la rue. Il y a déjà des contestations qu'on entend ici ou là. Et je vous ai dit, la Tunisie est un pays qui, depuis les révolutions arabes, suivez un processus positif, nous serons aux côtés des Tunisiennes et Tunisiens pour que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles.
Et vous souhaitez aujourd'hui un dialogue entre l'Union européenne et l'État tunisien sur ces questions de liberté?
Nous appelons à ce dialogue entre l'État tunisien et l'Union européenne et nous souhaitons que dans le cadre de différents programmes, l'Union européenne soit à tous les niveaux aux côtés des Tunisiennes et Tunisiens. Pour l'aide au développement, évidemment, et la crise économique rajoutée à la crise sanitaire a provoqué une situation difficile. Et nous souhaitons également que l'Union européenne continue à soutenir la pluralité tunisienne, les ONG, les associations de droits de l'homme. Nous devons être aux côtés de la Tunisie à tous les niveaux.
Vous évoquez cette situation difficile vécue par la Tunisie, notamment l'été dernier, avec cette crise sanitaire mêlée à une crise politique et une crise économique. L'Union européenne a été à la hauteur suite à ces crises dans son aide apportée à la Tunisie?
Je ne le crois pas. Je ne le crois pas, ni vis-à-vis de la Tunisie, ni vis-à-vis de d'autres pays. La crise sanitaire de la Covid a percuté l'Occident et les pays les plus développés, les plus riches. Beaucoup de choses ont été faites à l'échelle européenne pour accompagner les États membres à amortir le choc de ces crises. Moi, je trouve personnellement que nous n'avons pas été à la hauteur dans l'accompagnement de notre voisinage, que ce soit sur le plan de l'aide économique pour maintenir un tissu économique pour traverser cette crise sanitaire qui a été terrible pour ces pays-là, ou des soutiens en termes médicaux, de vaccins. Tout ça a pris beaucoup de retard et nous avons été vécus comme étant égoïstes dans cette crise. Et il faut qu'on en tire les conséquences à l'avenir.
Le député européen écologiste Mounir Satouri. Un pass sanitaire en Tunisie. Le décret présidentiel a été publié au journal officiel. Ce pass sanitaire est délivré à tout Tunisien ou étranger résident en Tunisie, âgé de 18 ans et plus, qui a achevé le schéma vaccinal anti-Covid. Il est notamment exigé pour accéder aux centres sociaux, aux centres hospitaliers et sanitaires, publics et privés, aux cafés, aux restaurants et à toutes les catégories de commerce, ainsi qu'aux espaces ouverts au public et aux sites consacrés très haut loisir. Le décret prévoit la suspension immédiate des agents de l'État ainsi que la suspension du contrat de travail des salariés du secteur privé jusqu'à présentation du pass sanitaire, une période de suspension non rémunérée. Un pass vaccinal aussi au Maroc. Pour accéder au commerce ou au transport, il faut obligatoirement avoir reçu au moins une dose de vaccin. Les tests PCR ne font pas partie du pass. Le Maroc, où 70% de la population est déjà vaccinée. Salah Amouri, l'avocat franco-palestinien, a vu son statut de résident révoqué lundi dernier par Israël. L'ancien directeur de l'Humanité, ancien député européen communiste Patrick Le Yarrick, appelle ceux qui s'étaient mobilisés pour lui quand il était en détention à ne pas accepter cette décision. Patrick Le Yarrick.
Nous avons aujourd'hui en Israël un nouveau gouvernement qui poursuit exactement ce que faisait le précédent gouvernement qui était ultra-droite. Et donc, les principes fondamentaux, la colonisation, la construction du mur, les prisonniers politiques, c'est exactement les mêmes choix amplifiés qui sont faits. Et dans le cas de Salah Amouri, il faut bien comprendre que c'est un citoyen qui a la nationalité à la fois palestinienne et française. Et en plus, c'est un avocat, un défenseur des droits, et on veut, le gouvernement israélien veut s'en débarrasser. Donc, il conviendrait que d'une part, nos concitoyens se remobilisent pour défendre la possibilité pour Salah Amouri de résider à Jérusalem. On ne peut pas être, comme certains le proclament pour le droit de circulation et le droit d'installation partout dans le monde, et qu'il y aurait un citoyen dans le monde qu'on exclurait de ses propres terres, de la maison de ses parents. Et la seconde chose, il faudrait que, s'agissant d'un franco-palestinien, il faudrait que le gouvernement français soit beaucoup plus net, beaucoup plus ferme avec le gouvernement israélien.
Comment expliquez-vous l'acharnement des autorités israéliennes sur la personne de Salah Amouri depuis des années ?
Ils ont une difficulté, c'est-à-dire qu'à la différence d'autres amis palestiniens, du fait qu'il a cette double nationalité, du fait qu'il y a eu des mouvements populaires de soutien assez importants dans notre pays, et aussi du fait que le Quai d'Orsay, le gouvernement français, a continué, même quand Salah Amouri était emprisonné, à aller le voir et le soutenir, les autorités israéliennes ne peuvent pas lui réserver le sort des prisonniers politiques palestiniens, et donc on préfère s'en débarrasser, le faire quitter le territoire, parce qu'ils savent bien que le réemprisonnerait déclenchera une campagne de masse pour le sortir de prison. Mais nous devons, je crois, faire la même campagne pour empêcher qu'il soit expulsé de Jérusalem et qu'il puisse exercer son métier à Jérusalem et celui de défenseur des droits humains, des droits des Palestiniens.
L'ancien directeur de l'Humanité, ex-député européen Patrick Le Yarrick, il répondait à Loïc Barrière. Cela faisait hier 38 ans, le 23 octobre 1983, un attentat visait l'immeuble Drakkar à Beyrouth, au Liban. À l'intérieur se trouvaient les parachutistes français en opération dans le pays, alors en guerre. 58 d'entre eux ont été tués dans l'explosion. Ils avaient été mandatés par l'ONU pour faire respecter la paix civile au Liban. Les tensions politiques au Soudan, la coalition pro-civile a réitéré son soutien au Premier ministre Abdallah Hamdok. Elle met en garde contre un coup d'État rampant. Des centaines de manifestants réclament depuis une semaine un gouvernement militaire. Le Soudan, déjà en proie à une crise politique et économique, est le théâtre depuis un mois du blocage de son principal port dans l'est du pays. L'aviation éthiopienne a lancé ce dimanche une nouvelle frappe au Tigré, une frappe dans l'ouest de cette région en guerre. Une annonce du porte-parole du gouvernement. Il s'agit du 7e bombardement aérien de l'armée fédérale sur le Tigré depuis le début de la semaine. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, le démantèlement de la jungle de Calais, un bidonville à 5 kilomètres du centre-ville où étaient regroupés des centaines de candidats à l'exil avec l'espoir de rejoindre la Grande-Bretagne. 5 ans après, le nombre de traversées de la Manche, souvent avec des petits bateaux, a considérablement augmenté. La gestion de la frontière reste dans l'impasse. L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient ce dimanche à 19h est Fatma Bouvet de La Maison Neuve pour L'Île aux Mers, un roman publié aux éditions Pont-Neuf, roman qui évoque évoque la féminité et la maternité. Une maternité qui est une expérience difficile à transmettre, explique la romancière, également psychiatre.
Je pense qu'elle est impossible à transmettre, puisque lorsqu'on discute avec des personnes, je reprends mon travail, là je me mets en tant que psychiatre, avec des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple, parce que c'est aussi ça l'histoire. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans le livre, et parfois certaines femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui décident, qui prennent une décision brutalement, voilà, on ne sait pas pourquoi, mais vont avoir un enfant. Et donc, on a beau expliquer la difficulté, la charge, le parcours du combattant, comment faire pratiquement, comment faire psychologiquement, en fait, ce qu'on transmet n'est jamais bon pour la personne qui l'entend, parce que chacune vit sa maternité à sa façon, et nous sommes toutes en fait des mauvaises mères parce qu'on fait toujours mal, mais en même temps nous sommes les meilleures mères parce qu'on fait toujours au mieux de ce que l'on peut, mais ça ne sera jamais en tenant compte de ce qu'on nous a dit. Donc je pense que on ne peut pas apprendre à être mère. Ça se fait comme ça. Parfois on a l'impression que les enfants grandissent sans avoir rien fait, mais en fait on a énormément fait. Simplement on ne se rend pas compte de l'intensité de ce que nous avons fait.
Fatma Bouvet de la Maison Neuve, c'est un livre sur la maternité, mais aussi sur la féminité. Ève, par exemple, évoque un grand malentendu entre les hommes et les femmes sur les raisons qui poussent les femmes à vouloir être belles. Pour Ève, c'est pour se plaire à elles-mêmes que les femmes font attention à leur apparence.
Oui, alors vous avez raison de dire que c'est un livre qui est sur la féminité aussi. Je dirais presque que c'est un livre qui est surtout sur la féminité, parce qu'il y a... Il peut y avoir un malentendu sur, voilà, on va parler de la maternité, de l'accompagnement à la maternité, de l'autonomie, etc. Non, il s'agit absolument pas de ça. Il s'agit de quelque chose de très profond. Et donc, mon objectif aussi dans ce livre, c'était de rendre accessible tout ce qu'on se dit entre nous et qui généralement n'est absolument pas audible dans la société. Ce qui est féminin et qui relève de l'intimité du féminin est souvent considéré comme obscène, et j'avais envie de le rendre public.
Fatma Bouvet de la Maison Neuve, auteure de L'île aux mers, un roman publié aux éditions Pont Neuf. Elle est l'invitée à 19h de la bibliothèque de Radio Orient, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.